Je m'appelle Ibrahim Malouf et je suis musicien et compositeur essentiellement, mais j'enseigne également.
Votre instrument de prédilection, c'est la trompette plutôt ?
C'est oui, la trompette et puis pratiquement tout le temps quand je compose, je suis au piano. Mais je compose aussi un peu à la trompette.
Quel genre d'ado étiez-vous ?
Je sais pas si j'ai assez de recul pour me rappeler vraiment de ça, mais je dirais que j'étais très timide, mais qu'il fallait pas m'embêter. Il y avait un petit côté un peu de... D'ailleurs, je suis un peu resté comme ça finalement, donc assez timide, assez souvent dans mon coin. Pas forcément extrêmement sociable quand on m'aborde pas, mais quand il y a l'occasion est ouverte, évidemment, je suis très sociable. Mais surtout, vraiment très, très timide, mais je supportais pas qu'on puisse me... Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, qu'on puisse être désagréable. Alors là, je réponds vraiment, je suis pas timide du tout. Voilà.
Ok, mais on venait souvent vous chercher quand vous étiez ado ?
Alors vraiment, j'étais pas du tout bagarreur, vraiment. Mais par contre, oui, on m'embêtait souvent parce que j'étais un peu bizarre quand j'étais petit. Par exemple, j'avais une barrière au niveau du langage. Moi, comme j'ai appris à parler français à l'âge de 4-5 ans, avant, je parlais pas un seul mot de français, la maternelle, le CP, etc., c'était un peu compliqué. Et donc, j'ai traîné ça comme un genre de blocage, manque de possibilité de me mélanger aux autres élèves de ma classe. J'ai gardé ça quand même assez longtemps. Je pense que jusqu'au milieu du collège, j'étais encore finalement un peu handicapé par ça. Et même si j'ai évidemment appris à parler français comme tout le monde en France, etc., et que j'étais bien, malgré tout, il y avait quand même un décalage qui persistait. Et je crois même être capable de dire que... même encore aujourd'hui, parfois, de temps en temps, dans certains contextes, je peux encore sentir ce décalage. Et c'est la musique m'a énormément servi justement à me libérer de ça.
Mais est-ce que justement ça vous donnait un peu moins confiance en vous parce que vous ne saviez pas forcément vous exprimer comme vos camarades ?
Alors paradoxalement, j'ai envie de dire plutôt le contraire. Parfois le fait de se renfermer, ça permet aussi de se protéger. Et cet instinct de protection, je l'ai mis pas mal en valeur grâce à mon père. Moi, dès l'âge de 9 ans, bon, j'ai commencé la trompette à 7 ans. Avec mon père, je prenais des cours tous les jours. Et comme je prenais des cours tous les jours, j'ai progressé très vite. Et vers l'âge de 9 ans, déjà, je faisais des concerts avec lui. Il m'invitait, je faisais 2-3 notes avec lui. Puis progressivement, je jouais des concertos entiers, etc. Avec orchestre ou avec piano, et avec orgue, etc. Et donc, j'avais mon petit monde qui me rassurait, où j'étais assez valorisé, où les gens m'applaudissaient après le concert. Enfin voilà, quand on est petit, on est assez impressionné par ces choses-là. Donc j'ai grandi avec une confiance malgré tout, qui m'a pas mal suivi et protégé pendant longtemps, et qui finalement m'a aidé à ne pas me renfermer et à pas être bloqué par le manque de communication avec la parole, quoi. Parce que c'est vrai que ça peut en effet avoir un effet plutôt négatif.
Mais en plus, c'est vrai qu'il faut avouer que le parcours est quand même assez atypique. Votre papa est aussi trompettiste, professeur de trompette aussi, et il a inventé en plus quelque chose de particulier par rapport à la trompette. Vous pouvez en dire deux mots peut-être ?
Oui, en fait, dans les années 60, mon père était étudiant au Conservatoire de musique supérieure à Paris. Et en fait, en arrivant en France pour faire ses études, une de ses premières volontés était de réussir à transformer cette trompette de manière à ce qu'il joue la musique arabe. Il aimait beaucoup la trompette, il avait envie de jouer de la trompette, et en même temps, il était embêté parce que la trompette ne permet pas de jouer les gammes arabes. Et donc, il a ajouté un piston qui permet de faire ça. Voilà. C'est un piston qui permet de jouer les quarts de ton.
Donc le quart de ton, c'est ce qui distingue justement la musique arabe, peut-être d'autres musiques précisément ?
C'est les quarts de ton, ce sont des intervalles qui n'existent pas dans la musique occidentale en général. Mais dans les musiques indiennes, par exemple, ça existe aussi. Dans la musique africaine, ça existe. Dans le blues, ça existe. Dans le blues, qui est un héritage de la musique africaine. Donc ça existe également. Dans le jazz, ça peut exister. C'est ce qu'on appelle la blue note, qui est un héritage du blues, justement. Et cette blue note, en fait, c'est une note... Ils appelaient ça comme ça parce que en américain, enfin si j'ose dire, en anglais, mais en anglais américain, quand on a le blues, c'est quand on est un peu triste en fait. D'ailleurs, on utilise toujours un peu cette expression aujourd'hui. Et la blue note, c'est parce que ça leur rappelait à l'époque, ça leur rappelait les sentiments finalement d'Afrique, venus d'Afrique. Donc cette blue note, c'est un héritage de la musique africaine. La musique africaine et la musique arabe sont vraiment très 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 proches.
Alors, on va repartir sur les concerts que vous faisiez quand vous étiez justement très jeune. Et aussi, est-ce qu'il y a eu dans votre adolescence quelque chose qui a changé votre parcours professionnel ?
Il y a eu beaucoup d'impact en fait. Il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand je cherche des musiques et que je travaille des musiques pour des projets que j'ai aujourd'hui, souvent, je vais récupérer énormément de choses que j'ai pu composer quand j'avais entre 9-10 ans et 15-16 ans, 17 ans. Parce que c'était une époque, justement, comme je vous disais, où j'ai composé énormément de choses, parce que je m'étais enfermé dans ça. Et c'était mon langage, c'était mon petit monde à moi, c'était ma petite bulle. Et donc, j'avais énormément composé. Et dans ces compositions, évidemment, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément d'intérêt. Parce que quand on compose, il y a plein de choses qui n'ont pas forcément de sens. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un ou deux ou trois éléments qui vont être vraiment intéressants à exploiter. Et aujourd'hui, avec le recul, j'arrive à, en réécoutant ce que j'ai pu faire à cette époque-là, en les retravaillant, etc., à récupérer vraiment l'essentiel de ce qui était bien et de les remettre aujourd'hui dans mon travail. Et je me rends compte qu'en effet, toute cette époque-là, quand j'étais plus jeune, a été, est pour moi aujourd'hui, une des inspirations principales. Par exemple, quand j'arrive difficilement à composer quelque chose, je suis trop occupé ou j'ai pas le temps, etc., souvent je me dis, mais c'est marrant, quand j'étais plus jeune, c'était plus facile. Alors, qu'est-ce que je composais? Et j'essaie de me rappeler de deux, trois choses, et puis j'ai plein de mélodies qui reviennent, plein d'harmonies, de rythmes, etc. Et alors, je les réécris, je les retravaille aujourd'hui. Puis j'étais... En fait, mon enfance artistique, musicale, était quand même très intense, très intéressante. Donc, à côté des concerts que je faisais avec mon père, et d'ailleurs, dans ces concerts, on jouait une partie de musique classique, baroque, qui m'enseignait régulièrement à la maison, et une partie de musique arabe. Et donc il y avait ce mélange qui était là. Ensuite, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à découvrir la pop. Et ça a été une révolution dans ma famille. Et d'un seul coup, quand ils m'ont vu sauter et danser dans tous les sens en écoutant Michael Jackson et tout, personne n'avait vu ça dans la famille avant. Après, j'ai commencé à découvrir le rock, le hard rock. Ça, j'avais entre 12 et 13, 14, 15 ans. Après, j'ai découvert le hip-hop et la musique électronique, etc., etc. Plus tard, j'ai découvert la musique balkanique, les musiques indiennes. Donc en fait, très jeune, dans ma famille, il y avait une ouverture d'esprit vis-à-vis de toutes les musiques qu'il pouvait y avoir. Et c'était très riche, en fait. C'était vraiment très riche. Dans notre maison, la musique était partout. Il y en avait tout le temps. Donc tout ça, certainement, a généré plein d'idées, plein d'envies, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de... cette chance-là d'avoir eu énormément de matières à exploiter. Aujourd'hui, je les exploite, même si je compose aussi des choses aujourd'hui que je n'ai pas composées avant, etc. Mais il y a quand même comme un truc assez rassurant, quoi, d'avoir tout un paquet de mélodies et d'idées qui avaient été développées il y a 15-20 ans.
Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, parce qu'effectivement, vous l'avez un peu mentionné, vous étiez vraiment issu d'une famille de musiciens, vous étiez, même votre maman était dedans aussi.
Voilà, mon père, ma mère... ma sœur, du coup, a fait aussi un peu de musique, fait du piano, elle compose aussi également. Et puis, dans le reste de ma famille, tout le monde est plus ou moins mélomane ou musicien. Ma tante est également pianiste. J'ai une autre tante qui est peintre, un oncle qui est écrivain, qui est quand même très connu, Amin Malouf. Il y a dans mes grands-parents également des poètes, musicologues, journalistes, etc. Donc, on a toujours été dans l'art, dans le milieu de l'art en tout cas, et de la littérature.
Effectivement, donc ce grand bain peut-être a fait que vous ne vous êtes même pas posé la question de savoir si vous feriez de la musique ou pas plus tard.
Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. En fait, ce que je sais, c'est que jusqu'à l'âge de 17 ans, il était hors de question que j'en fasse mon métier, mais que mon père insistait énormément pour que je me dirige dans cette direction. Et moi, je ne voulais pas, j'avais envie d'être architecte. Et j'avais déposé mon dossier dans plusieurs prépas différentes, prépas scientifiques, puis en même temps, je me suis inscrit au Conservatoire de Paris pour le concours, pour entrer, pour voir si... En gros, pour voir si j'étais capable, quoi. Je me suis dit, bon, étant donné qu'il y a des... En plus, il y a des limites d'âge dans la musique, c'est-à-dire que pour certains instruments, dépasser 20 ans, vous ne pouvez plus faire d'études supérieures. Dépasser 25, vous ne pouvez plus, etc. Pour la trompette, c'était 24 ans. Donc, j'avais 17 ans, donc j'avais encore quand même le temps. Mais je me suis dit, si je vais dans mes études scientifiques et mes études d'architecte, et que finalement, je me dis, bon, finalement, je vais revenir à la musique quand même, et ben j'aurais quand même perdu beaucoup d'années, je serais beaucoup moins intéressant pour au regard des jurys du conservatoire, etc., et des profs. Alors qu'aujourd'hui, je peux toujours faire la musique, et si ça ne me plaît pas, l'université ou les écoles m'accepteront quand même. Même après 10 ans ou 15 ans. Et donc, comme ça s'était bien passé sur le concours, je me suis lancé quand même dans les études de musique. Et puis finalement, je ne suis jamais revenu en arrière. Voilà.
Oui, puis non seulement ça, mais vous les avez faites brillamment. Vous avez majoré plusieurs fois. Enfin, il y a eu quand même un niveau aussi qui était...
J'ai essayé de faire les choses au maximum. Quoi. J'avais un exemple de mon père qui avait fait le conservatoire de Paris avec Maurice André, qui était juste le grand soliste à l'époque. C'était une star et mon père était prof avec cette personne-là et a étudié au conservatoire de Paris. Et donc derrière lui, un passé assez prestigieux et puis a fait vraiment une belle carrière, surtout dans les pays arabes, etc. Donc je me suis dit, si je veux faire de la musique, j'ai intérêt à au moins faire les études qu'il a faites et avoir au moins comme base ça, quoi. Et ensuite, si j'ai dépassé mon papa, je verrai si... Voilà, j'avais comme un défi. Et donc, c'est vrai que je l'ai fait jusqu'au bout, quoi. J'ai fait ce qu'on appelle les concours internationaux. Chose que mon père n'a pas faite pour le coup, mais c'était quand même, voilà, j'ai vraiment essayé d'aller au maximum et de la technique et de la performance musicale, vraiment d'essayer d'aller le plus loin possible sur tous les aspects, voilà. Et finalement, évidemment, la musique a pris la place qu'elle devait prendre à un moment donné, et puis voilà.
Et votre papa est fier de vous ?
Ben, j'espère, je sais pas, je pense.
Vous n'avez pas parlé ?
Pas tellement, en fait, non, on n'a pas tellement parlé de ça.
Et vous jouez ensemble ?
On a joué beaucoup ensemble jusqu'à l'âge... Je crois que mon dernier concert avec mon père en duo, je devais avoir peut-être 15 ans, 16 ans.
Merci beaucoup, vraiment. Est-ce que vous auriez un message pour les ados qui, justement, soit s'orientent vers la musique, soit s'orientent vers les carrières professionnelles tout court ? Est-ce que vous auriez un message, en tout cas, à leur transmettre ?
J'ai plein de conseils. Oui, c'est sûr, des conseils, il y en a plein. Ça n'engage que moi, mais la première chose à laquelle je pense, c'est que souvent, et ça c'est un truc que j'ai remarqué en France, plus qu'ailleurs, mais en France, souvent on valorise l'individu, ce qui est une excellente chose. On favorise moins le groupe, mais plus l'individu. Mais il y a parfois une limite à ça. Et la limite, moi je l'ai senti à un moment donné. La limite, c'est que parfois, on oublie que... Encourager l'individu et la personnalité et le monde de chaque personne, c'est super, il faut absolument le faire, mais il faut parallèlement que chaque personne se rende compte et réalise à quel point sa formation est importante avant. C'est-à-dire qu'il faut avoir le langage, il faut maîtriser des langages, il faut se cultiver et apprendre un maximum de vocabulaire pour ensuite pouvoir exprimer ce qu'on a à dire le mieux possible. Et c'est un aspect des choses qui est souvent squeezé. Souvent par les jeunes, parce qu'ils ont un peu peut-être la flemme d'aller faire toutes les formations nécessaires. Et donc, dans l'ordre des choses, il faut évidemment continuer à exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer. Mais dans l'ordre des choses, il faudrait aussi, parallèlement, se former vraiment dans ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire, si on a envie de faire un instrument de musique, se former au maximum dans cet instrument. Si on a envie d'être compositeur, apprendre vraiment très bien comment on compose. Et dans tous les domaines, que ce soit le sport ou d'autres choses, vraiment d'apprendre la technique et d'avoir un maximum de vocabulaire et se cultiver vraiment, de manière à ce qu'après, on puisse avoir un maximum de possibilités pour exprimer tout ce qu'on a à dire. Et voilà, moi j'ai l'impression souvent, et je vois ça avec mes élèves, que, évidemment, la priorité c'est de s'exprimer, et ça c'est vrai, mais ils se forment pas très bien, ils se cultivent pas assez, ils n'ont pas assez de vocabulaire, et donc ils sont un peu parfois frustrés, ils ont envie d'aller plus loin et ils y arrivent pas. Et ça les énerve, et ça les frustre, ça les énerve, je le sens, il y a vraiment comme un truc presque agressif qui arrive à un moment donné, parce qu'ils comprennent pas pourquoi ça marche pas, et je leur dis, mais il y a quand même un paquet de choses qu'il faut savoir avant que t'arrives à exprimer ce que t'as envie d'exprimer, et donne-toi les moyens de le faire, et voilà, et fonce pendant quelques temps, cultive-toi, fais plein de choses, apprends plein de choses, voyage, apprends plein de choses, et ensuite, tu verras, t'arriveras encore beaucoup mieux à exprimer ce que t'as à dire. Donc voilà, si j'ai un conseil, ce serait plutôt, pas un message, mais un conseil, ce serait plutôt ça, quoi.
Merci beaucoup, vraiment, merci.